Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongou Massimango.
Lutte contre Ebola. Le ministre de la Santé promet de régler les revendications des prestataires de la riposte, le temps d'aplanir certains dysfonctionnements, notamment dans la gestion des ressources humaines. Roger Kambala dit hier lors d'une visite de travail à Bounia. La résolution de la crise en RDC passe d'abord par le dialogue politique et le renforcement de la cohésion nationale. C'est le message de la coalition C64 lors de ses échanges à Bujumbura avec Évariste Ndayishimiye. La C64 a fait hier la restitution de cette rencontre à Kinshasa. Comme invité Gilles Faninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au terme de sa mission de 3 jours clôturée hier à Bounia, il part de l'apport de l'UNICEF et de ses réponses face aux défis auxquels font face les enfants en première victime de l'épidémie et des conflits en Ituri. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre de la Santé en mission à Bounia, en Ituri, Roger Kamba, est allé évaluer la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Cela fait déjà 56 jours ce vendredi depuis la déclaration de cette 17e épidémie. Après une réunion avec le gouverneur militaire de l'Ituri, Roger Kamba a rencontré les équipes engagées dans la lutte contre la maladie. Que retenir de cette visite, Jean-Claude Lekidile?
Cette visite intervient dans un contexte particulier, marqué par la grogne des prestataires de la riposte. Ces derniers dénoncent le non-paiement de leurs primes, des disparités salariales, ainsi que des conditions de travail qu'ils jugent difficiles. Face à ces revendications, le ministre reconnaît des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines, notamment lors de la mise à jour des listes du personnel. Il promet des mesures pour assainir le système de paiement et garantir que seuls les agents effectivement déployés sur le terrain seront rémunérés. Roger Kamba.
Nous devons nous assurer que nous payons ceux qui travaillent. On a eu quelques défis, c'est notamment du changement des listes, qui a fait que, malheureusement, il y a eu des grognes de certains qui disaient « mais moi je ne suis pas payé alors que je travaille ». Et d'autres ont dit « mais où est-ce qu'il travaille alors qu'il est payé ?». Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va régler. Nous allons donner une carte de santé à tout le personnel qui travaille. Et cette carte, elle est en même temps une carte de banque. Le paiement se fera donc de manière beaucoup plus fluide. Chacun va recevoir son argent sur sa carte. Et donc, ce problème sera effectivement réglé.
Le ministre a par ailleurs indiqué que l'Ituri demeure dans une phase très active de l'épidémie, marquée par une augmentation quotidienne des cas et par l'extension de la maladie vers la province de la Tchopo et celle du Haut-Touélé. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Et l'un des principaux défis de cette nouvelle épidémie d'Ebola reste là. L'absence d'un vaccin contre la souche Bundi Ibuyo, responsable de la flambée en Ituri. Cette question a été évoquée par la presse en marge de la visite du ministre de la Santé à Bounia. Le professeur Steve Aouka de l'Institut national de recherche biomédicale INARBE a justement fait le point sur les recherches en cours. Écoutons-le dans cet extrait que nous propose Jean-Claude Lekidile.
Jusque-là, la souche à laquelle nous faisons face n'a pas encore de vaccin homologué, comme on dit, c'est-à-dire qui a été éprouvé. Cependant, et c'est cela une partie de notre travail, c'est de pouvoir rechercher si les candidats vaccins qui existent peuvent être efficaces. Ça, c'est la première phase et c'est dans une activité de recherche, mais qui appuie la réponse. Et lorsque nous allons avoir les évidences que ces candidats vaccins marchent, on peut maintenant l'utiliser à grande échelle. Et nous sommes dans un délai entre 4 à 6 mois ou une année pour faire ces recherches et pouvoir apporter la véracité parce que nous ne pouvons pas utiliser un vaccin homologué pour tout le monde. Il y a les questions de sécurité sanitaire, il y a les questions d'efficacité qu'on doit résoudre. Les équipes sont en train de voir dans quelle mesure on va commencer ces recherches de manière à appuyer la réponse et mettre fin à l'épidémie.
Entre-temps, à Beni, au Nord Kivu, la riposte contre Ebola se renforce. Un nouveau centre de traitement est désormais opérationnel après son inauguration il y a une semaine. Doté de 20 lits, il doit permettre une prise en charge rapide des cas suspects et confirmés. Alors comment fonctionne cette structure? Martial Papimoukeba l'a visité, son reportage.
Est-ce qu'on peut accéder au centre?
Oui, volontiers, on peut accéder.
Dès l'entrée, les mesures de biosécurité s'imposent. Lavage des mains et contrôle de la température sont obligatoires. Le docteur Jérémy Mouindo, président de la commission de prise en charge de la riposte contre Ebola à Beni, nous guide.
Ici, nous venons de nous laver les mains. Nous allons passer aussi à la prise de la température.
Les patients suivent un circuit bien défini. Accueil, triage, isolement, puis prise en charge médicale. Le centre est divisé en zones distinctes, en fait de limiter tout risque de contamination.
La zone à haut risque, c'est cette zone-là qui est occupée par les malades. C'est aussi la zone où on gère tous les déchets. Les déchets d'ici sont gérés à l'intérieur parce que ce sont des déchets très dangereux.
Les cas suspects et les cas confirmés sont accueillis dans des espaces séparés de 10 lits chacun.
Le premier bloc qui a une capacité de 10 lits, c'est pour les malades suspects. Le deuxième bloc qui a aussi une capacité de 10 lits, c'est pour les malades confirmés d'Ebola.
Le centre de traitement Ebola de Beni prend actuellement en charge 3 patients. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
La résolution de la crise en RDC passe avant tout par le dialogue politique et le renforcement de la cohésion nationale. C'est le message qu'a porté la coalition C64 lors de ses échanges avec le président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine. Au cours d'une conférence de presse hier jeudi à Kinshasa, la plateforme a fait la restitution de cette rencontre. La C64 affirme par ailleurs qu'elle poursuivra ses actions pacifiques jusqu'à l'abandon du projet de révision constitutionnelle par le pouvoir. Écoutons Jean-Marc Kabound dans cet extrait retenu par Jean Gandou.
Le président Evariste Ndayishimiye a indiqué avoir engagé, encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique, crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes.
Et alors que des initiatives de paix se multiplient pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est du pays, plusieurs observateurs notent avec désespoir l'absence de résultats probants pour les accords déjà signés, ainsi que l'exclusion des communautés affectées par cette crise lors des processus de discussion. C'est le cas du collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu. Ils dénoncent cette exclusion et appellent à plus d'inclusivité. Romnelé Intibonera pour les détails.
Dans leur déclaration, les acteurs de la société civile regrettent que la multiplication des initiatives de paix n'ait pas permis de mettre fin aux violences qui persistent dans le province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon eux, ces affrontements récurrents continuent d'entraîner des déplacements massifs des populations et d'aggraver la crise humanitaire dans les zones touchées. Face à ces constats, ils estiment qu'il est urgent de procéder à une évaluation objective des processus de paix en cours afin d'en tirer les enseignements nécessaires et d'adopter des approches mieux adaptées aux réalités du terrain. Ces organisations dénoncent également leur marginalisation dans les mécanismes de recherche des solutions, alors qu'elles affirment disposer d'une connaissance approfondie des causes profondes des conflits qui s'écoulent l'est du pays. Pour elles, aucune paix durable ne peut être envisagée sans une participation effective des communautés concernées. Tout en appelant les parties au conflit à mettre fin aux hostilités, les collectifs exhortent le gouvernement à privilégier une approche inclusive dans la conduite de processus de paix en y associant pleinement les représentants de la société civile, les jeunes ainsi que les femmes. Cette déclaration intervient au moment où l'accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda franchit sa première année de mise en œuvre. À travers cet accord, les deux pays s'étaient engagés à s'abstenir de toute agression mutuelle, à respecter leur intégrité territoriale respective et à veiller au respect du cessez-le-feu par les parties engagées dans les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo.
Autre chose, un feu de brousse a viré au drame dans le territoire de Bagata, dans la province du Kwilu. Trois enfants ont trouvé la mort au village Loué, situé dans le secteur de Manza Asai, parmi eux deux d'une même famille. Selon des informations recueillies sur place, le drame s'est produit mercredi. Les circonstances exactes de cette tragédie restent particulièrement bouleversantes pour les habitants du village. Contacté par téléphone, la chef du secteur de Manza Asai, Niclette Tanguy, confirme l'information. Elle explique les circonstances de ce drame au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
il y a eu la mort de 3 enfants. 2 étaient morts sur place là-bas dans la brousse et l'autre était parti trouver la mort à l'hôpital au centre de santé de référence d'Indana. Les enfants habitent, oui. Ils étaient partis à la forêt pour chercher les gingembre, mais il y avait les grands qui étaient là à côté. Ils ne savaient pas qu'il y avait les enfants là-bas. Ils ont mis les, maintenant les enfants ont trouvé la mort. Mais l'autre était sauvé. Il y avait un enfant qui était sorti pour venir informer des grandes personnes que voilà, nous étions là-bas avec nos amis, mais voilà ce qui s'est passé. Ils sont morts brûlés dans la brousse. Un seul enfant qui était sauvé. Il est âgé de 13 ans. L'autre avait 13 ans. Les petits avaient 11 ans. Les enfants de la même famille. L'autre là qui est parti mort à l'hôpital, il a aussi 11 ans. En tant que chef de secteur, nous interdisons de mettre les faits aux brousses. Là où je suis dans le chef-lieu des secteurs, on a déjà interdit ça. Tout de suite là, on est en train de faire des notes circulaires de ne pas brûler les faits pendant que les gens ici.
Mieux connaître les effectifs de la police nationale congolaise pour mieux la réformer, c'est l'objectif de l'identification biométrique des policiers. La phase opérationnelle a été lancée hier jeudi à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Devant ses collègues du budget, de la fonction publique et des finances, Jacquemin Chabani a souligné l'importance de cette opération qui sera menée par la société Africa Business Agency, ABA. Selon lui, elle permettra d'assainir les effectifs, d'améliorer la gestion des carrières, également de garantir une meilleure utilisation des ressources publiques. Suivez Jacquemin Chabani dans cet extrait choisi par Grace Hamzati.
Cette mission, je le rappelle, est le fondement de la réforme de la police. La maîtrise des effectifs est le préalable à toute réforme de ressources humaines, à toute politique salariale cohérente, à toute amélioration des conditions de service de nos policiers. Cette mission ne saurait être portée par une seule structure. Elle doit mobiliser l'ensemble de la hiérarchie policière à tous les niveaux. La phase qui s'ouvre, celle du déploiement dans l'ensemble de nos 26 provinces, s'avère nécessaire et irréversible, car elle se concentrera sur la mobilisation des ressources humaines de la police nationale congolaise, l'acquisition des consommables, le déploiement de la logistique sur l'ensemble du territoire. Ainsi, je vous demande solennellement, très chers collègues, de faire le nécessaire pour que les fonds requis soient mis à disposition dans les délais impartis. La réussite de cette mission dépend de notre capacité collective à surmonter les difficultés financières et techniques.
Restons à Kinshasa. Les cas de vol de perruques portées par des femmes se multiplient, particulièrement à la place Victoire, située entre les communes de Kassavubu et de Kalamu. Les femmes qui fréquentent ces lieux désirent dans la peur d'être agressées par des jeunes délinquants qui arrachent leurs perruques avant de prendre la fuite. Elles appellent au renforcement de la sécurité dans ce secteur. Joyce Massanka s'y est penchée.
Sur le terrain, des femmes rencontrées à la place Victoire rencontrent leur inquiétude face à la multiplication de vols de perruques. Selon plusieurs témoignages, les malfaiteurs profitent souvent de moments de forte affluence, des embouteillages ou de la distraction des passantes pour passer à l'action. Certaines victimes expliquent avoir perdu des perruques achetées à des prix élevés.
J'étais en train de marcher à la place Victoire pour rentrer chez moi. Il y avait beaucoup de monde. Tout à coup, j'ai senti quelqu'un tirer très fort ma perruque. Avant que je comprenne ce qui s'est passé, le jeune homme était déjà enfoui en courant. J'étais vraiment choquée et humiliée après cet incident.
Pour les commerçants installés autour de la place Victoire, ces vols sont devenus une source d'inquiétude.
Nous assistons souvent à ce genre de scènes. Les voleurs observent d'abord leurs victimes. Dès qu'ils voient une femme distraite ou il y a un embouteillage, ils s'approchent rapidement, arrachent la perruque et prennent la fuite. Tout se passe en quelques secondes.
En attendant de mesures concrètes pour lutter contre ces phénomènes, plusieurs femmes disent désormais rester prudentes lorsqu'elles traversent la place Victoire, un lieu où la vigilance est devenue une nécessité.
Actualité internationale.
Le Sénat paraguayen a officiellement pris ses distances avec la sénatrice Céleste Amarilla, mise en cause pour ses propos racistes visant le footballeur Kylian Mbappé. Réunie en séance hier, la Chambre haute a adopté une motion tenant l'élu personnellement responsable de ses déclarations afin de dégager l'institution de toute responsabilité dans cette affaire. Et puis, les manifestations contre l'immigration ont pris une nouvelle tournure en Afrique du Sud. Hier jeudi à Johannesburg, des groupes de Sud-Africains ont amené des étrangers présumés en situation irrégulière à la police, ce qui vient alimenter un climat de peur dans plusieurs quartiers et ravive aussi les tensions avec certains pays et voisins.
L'invité.
Le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a achevé hier jeudi une mission de 3 jours dans la province de l'Ituri confrontée à l'épidémie d'Ebola et à l'insécurité. Au cours de son séjour, Gilles Faninou a rencontré des autorités provinciales, des partenaires engagés dans la riposte, ainsi que des équipes de plusieurs centres de traitement d'Ebola et des structures sanitaires appuyées par l'UNICEF. Quel bilan tire-t-il de cette mission? Quelle réponse l'UNICEF entend-il apporter aux défis auxquels font face les enfants, premières victimes de l'épidémie et des conflits? Gilles Faninou répond aux questions d'Isaac Raymond.
Gilles Faninou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé depuis mardi à Bounia. Quel est l'objectif de votre mission en Ituri dans un contexte marqué par l'épidémie d'Ebola et les défis humanitaires persistants?
L'objectif de ma visite, c'est vraiment de voir comment l'UNICEF contribue à la riposte nationale. Nous avons déployé une grande équipe ici. C'était important, après pratiquement 8 semaines de réponse, de venir voir le niveau de contribution de l'UNICEF, les défis qui se posent et voir un peu comment nous pouvons soutenir davantage pour accélérer notre contribution à la riposte.
Quel appui l'UNICEF apporte-t-il actuellement au gouvernement de la RDC dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, notamment en Ituri?
Ebola, c'est une épidémie qui frappe beaucoup plus les enfants et les femmes. Donc en tant que tel, notre rôle, c'est d'attirer l'attention de tous les acteurs, le gouvernement, mais également les autres partenaires, qu'on comprenne que l'enfant est très affecté. La femme est très affectée et que ce sont des populations cibles qui ont des besoins particuliers dont il faut tenir compte dans la riposte. La deuxième chose, c'est que notre contribution s'articule autour de 2 à 3 composantes principales. Communication de risque, tout ce qui est engagement communautaire. La deuxième composante, hygiène, eau et assainissement. Troisièmement, on apporte aussi l'appui psychosocial aux enfants. Quand les parents sont affectés, les enfants se trouvent dans une situation particulière et ont besoin de psychologues, ont besoin d'appui psychosocial. Et ça, l'UNICEF appuie le gouvernement dans ce domaine.
Des milliers d'enfants vivant dans plus de 60 sites de déplacés en Ituri sont particulièrement exposés au risque de contamination par Ebola à raison de conditions de vie précaires et d'un accès limité aux mesures de prévention. Comment l'UNICEF compte-t-il renforcer la protection de ces enfants dans le cadre de son mandat?
C'est d'abord de faire du plaidoyer. On a rencontré le gouverneur. Il a même demandé et nous avons répondu favorablement d'avoir une séance en août, le mois prochain, sur la situation des enfants dans la province de l'Ituri. Avant Ebola, il y avait une situation humanitaire critique, choléra, polio, beaucoup d'enfants en dehors des écoles, beaucoup d'enfants travaillant dans les mines, beaucoup d'enfants exploités. On avait la violence par rapport aux gens. Tous ces problèmes-là, c'est comme si notre mémoire les avait oubliés et on se focalise sur Ebola et la continuité des services de santé n'est plus là. Donc il est important, en même temps que nous intensifions notre réponse à Ebola, de continuer aussi les services essentiels. La province avait fait des progrès par rapport à ces services-là. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser tomber. On risque de regresser.
Dans plusieurs territoires de l'Ituri, notamment Djougou, de nombreux enfants sont privés d'école depuis plusieurs années à cause de l'insécurité. Quelles actions l'UNICEF envisage-t-il en collaboration avec le gouvernement pour garantir à ces enfants leur droit à l'éducation?
On a constaté, même avant Ebola, que la masse d'enfants en dehors de l'école était très très élevé. Si Ebola encore produit des enfants en dehors de l'école, nous risquons d'être dans une situation où le futur de cette province sera hypothéqué. Donc si nous voulons une province où il y a la paix, où il y a la tranquillité, il faut s'assurer qu'aujourd'hui les enfants sont à l'école, même si nous sommes en conflit, qu'on trouve des alternatives à l'école, même s'il y a Ebola, qu'on trouve les moyens de bien préparer la rentrée pour que Ebola ne devienne pas une source de production d'enfants en dehors de l'école.
Quel message souhaitez-vous adresser à la population de l'Ituri, particulièrement aux familles, aux enfants et aux communautés confrontées à l'insécurité et à l'épidémie d'Ebola?
Les communautés en général, elles font déjà beaucoup d'efforts. Et en général, lorsque vous avez une épidémie qui a duré quelques semaines, la population parfois commence par laisser tomber les mesures et les précautions. Non, c'est maintenant qu'il faut redoubler d'ardeur et il faut être plus vigilant. Le virus est là et continue de circuler à une vitesse qui est plus grande que le niveau de réponse qu'on donne aujourd'hui. Donc avec l'aide de la population, les précautions que la population prend, nous allons arrêter ou ralentir si chacun de nous, chaque membre de la communauté, prend les précautions qu'il faut et les précautions, on les connaît.
Gilles Fagninou, je rappelle que vous êtes le directeur régional de l'UNICEF en Afrique de l'Ouest et centrale. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est aussi la fin de ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne journée.